lors de ces entretiens de l'AFSE. Le thème qui a été choisi pour les entretiens de l'AFSE cette année porte sur un thème professionnel, comment innover dans la formation des économistes, un thème tourné vers l'activité de nos collègues universitaires. Dans le paysage français d'enseignement qui reste encore très particulier, très singulier au niveau international, notamment en raison du rôle des grandes écoles, cette question de la formation universitaire et son contenu est importante. Le contenu d'ailleurs, mais aussi l'architecture des formations elles-mêmes. Il y a plusieurs défis importants à relever. Celui de l'excellence de la recherche, ma foi, connaît des progrès non négligeables. Il faut s'en féliciter. Et à cet égard, il n'y a pas de doute que l'université bénéficie d'avantages concurrentiels importants par rapport aux grandes écoles. Il y a d'autres défis qui sont le défi de la diversité des étudiants, le défi de l'emploi, des débouchés, où là, probablement, des progrès importants peuvent être faits encore aussi bien en matière d'architecture de notre système universitaire d'enseignement qu'en termes de contenu des enseignements eux-mêmes. Nous sommes nombreux à la tribune, mais ceux qui vont faire les exposés fondamentaux ne sont que deux, en l'occurrence Jean-Luc Gaffard et Alan Kirman. Et donc je passe la parole à Jean-Luc Gaffard pour son exposé.
Comment on passe à ce truc-là ? Tout à l'heure j'étais passé, vous êtes venu me perturber. Hein ? Ça oui, mais enfin, j'arrive là. Ok, après c'est bon. Bien. Bon, c'est pas un exercice très, très facile hein, que je dois faire. J'aurais préféré parler de science. Je vais essayer d'en parler un petit peu quand même. Donc je voudrais d'abord provoquer un peu, hein, commencer par une question qui concerne aussi bien les chercheurs que les étudiants. Faut-il lire et faire lire Keynes ? Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a quelques années, dans un manuel de macroéconomie très important, un grand économiste que je ne citerai pas avait répondu clairement non. Et je pense que cette réponse n'a pas nécessairement à être aussi péremptoire, et que derrière se cache au fond qu'est-ce que c'est que l'économie et par voie de conséquence quelle est la nature de la formation qu'on doit donner aux économistes. Alors je reconnais que c'est un peu facile, hein, que la crise financière ça pose quand même beaucoup plus de problèmes à ceux qui sont en train de perdre leur maison que de satisfaire les économistes, mais quand même. Par ailleurs, je voudrais commencer aussi par une conviction. Je pense que l'analyse économique c'est une discipline, pour me référer à ce qu'a dit le personnage dont j'ai reproduit ici la photo. C'est une discipline qui est au confluent de traditions tout à fait multiples. Et pour moi, il est tout à fait important de connaître ces différentes traditions et de les confronter. Je pense aussi que l'analyse économique, c'est fait pour éclairer des débats, pour éclairer des choix, qui sont des choix économiques, mais qui sont aussi des choix politiques, comme j'aurai l'occasion de le dire. Et je pense que ces ambitions tout à fait légitimes sont loin d'être pleinement réalisées, ce qui, tout prendre, est tout à fait normal. Bon, pour les jeunes étudiants, je dirais simplement que ce personnage a été prix Nobel en 1972 et qui s'appelle John Richard Hicks. Alors, comment est-ce que je vois un peu le problème aujourd'hui, qui est celui de quelle formation pour les économistes à l'université, puisque c'est de ça dont il est question ? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, pour de bonnes et de mauvaises raisons, à une dichotomie croissante entre l'enseignement et la recherche, et que cette dichotomie est extrêmement dommageable. Elle est extrêmement dommageable à l'enseignement, bien sûr. Et ceci appelle une réflexion sur ce qu'est notre discipline. Et donc, je n'hésiterai pas à dire un peu quel est mon point de vue sur ce qu'est cette discipline aujourd'hui. Parce que cette réflexion, c'est ce qui doit nous permettre de construire une formation adaptée, sachant que je considère aujourd'hui que la formation des économistes à l'université est assez catastrophique, pour un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai. On a discuté ce matin dans ce même amphithéâtre des problèmes de sciences économiques et sociales. Je pense que les problèmes universitaires sont beaucoup plus graves que les problèmes de l'enseignement des SES. C'est lié évidemment à ce que Jean-Michel Charpin disait il y a un instant, c'est-à-dire le partage renforcé entre les grandes écoles et l'université. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème que j'essaierai d'éclairer. Et puis, évidemment, je crois que tout ça doit nous donner quelques idées sur ce que doit être l'organisation institutionnelle. Nous sommes en plein dans des réformes institutionnelles très importantes. Je dois vous dire que j'en partage à peu près la totalité, sauf une, qui est le mode de gouvernance des universités. Mais pour le reste, je pense que ce qui est dit est bon, sauf que la gouvernance des universités, c'est la clé de voûte. Et c'est un peu le problème sur lequel je voudrais quand même insister, même si ça dépasse assez largement le cadre de l'économie proprement dite. Alors, quel est l'état des lieux ? L'état des lieux, si je me réfère à ma période de vie professionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui maintenant touche les 38 ans quand même, c'est qu'en France, mais pas seulement en France, mais en France très particulièrement compte tenu du retard qui était le nôtre, il y a indéniablement une professionnalisation de la recherche, au bon sens du terme, qui veut dire que un nombre beaucoup plus important qu'autrefois de personnes maîtrisent les protocoles de base et les outils de l'analyse économique. Vous savez que nous sommes dans une période de restructuration du CNRS, de la recherche en France, et qu'il y a des tendances à penser que peut-être l'économie pourrait être réduite à deux centres. Pourquoi pas ? Je voudrais simplement dire que le travail qui a été fait dans 10 à 15 centres en France depuis 30 ans, c'est quand même ce qui a permis de faire accroître considérablement les capacités scientifiques de ce pays en économie. Deuxième élément qui est largement positif, même si je vais dire dans un instant qu'il a quelques contreparties, c'est qu'on est arrivé à des formats standardisés des thèses et des articles de revues, et qui permet en particulier que l'on puisse sélectionner les chercheurs sur la base de critères généraux, bien clairs, bien identifiables, qui se réfèrent à des indices de performance qui sont mesurables. Alors, tout type de sélection peut-être critiqué, mais il faut savoir qu'on a démultiplié le nombre de chercheurs. Nous ne sommes plus dans un monde aristocratique, nous sommes dans un monde démocratique. Et lorsqu'il faut sélectionner ceux qui vont devenir demain des maîtres de conférences et des professeurs, eh bien, il faut le faire sur des critères de comparabilité. Et quels que soient les défauts de ces critères, il n'y en a pas d'autres. Et donc, je crois que c'est très important. Évidemment, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une augmentation substantielle de la quantité de travaux, une réduction de leur durée de gestation, ce qui peut être là aussi parfois une bonne chose, parfois une mauvaise chose. J'ai tendance à penser que c'est globalement une bonne chose. Tout ceci, cette professionnalisation de la recherche, a un certain nombre, non pas de contreparties, mais de conséquences inévitables. La première, c'est la normalisation de l'activité scientifique. Qui est extrêmement importante, mais qui en même temps peut laisser de côté des pistes un peu moins solides, mais qui s'avèrent à terme des pistes intéressantes. Il y a également un resserrement des opinions sur l'importance des différentes hypothèses que l'économie véhicule et certains resserrements des intérêts qu'on porte sur des champs particuliers. Et là, je me réfère à un travail qui a été fait par David Colander sur les étudiants américains. Il a fait une étude assez récente, je crois que c'était 2004-2005, il en avait fait une 10 ou 15 ans avant, et visiblement il y a un resserrement, donc aux États-Unis, on n'est pas en train de parler de la France, où le processus est encore plus fort compte tenu du point dont nous partions, il y a un resserrement des opinions donc sur quelles sont les hypothèses sur lesquelles il faut travailler, quels sont les types de modèles sur lesquels il faut travailler, quels sont les champs que l'on doit investiguer. Et donc tout ceci, évidemment, va de pair avec une segmentation et une spécialisation croissante au sein de la discipline. Je parle évidemment pour ce qui est de la recherche pour le moment, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de chercheurs généralistes. Hein. Bien sûr, on va les trouver quand on regarde la liste des prix Nobel, pas de tous d'ailleurs, hein, mais c'est sûr que quand on regarde Joe Stiglitz, c'est pas très différent de Paul Samuelson. Mais je pense que pour ce qui est du peuple de la recherche, la segmentation est beaucoup plus forte, les spécialisations sont beaucoup plus fortes. Et vous verrez que ça a pour moi un certain nombre de conséquences pour les problèmes qui nous intéressent ici, qui sont les problèmes de formation. Dans cette situation, les critères de technicité l'emportent sur ce que j'appelle la maîtrise d'une culture scientifique. C'est lié évidemment à la segmentation croissante, nécessaire, inévitable pour faire progresser la connaissance, mais il faut reconnaître aussi cette chose-là. Le deuxième élément, c'est une distanciation croissante entre l'enseignement et la recherche. Il est tout à fait clair que les chercheurs fuient un enseignement qui leur semble d'aucune utilité pour la recherche. Et j'ajoute que les autorités en général, qui sont sensibles au classement basé sur les performances scientifiques, ont une tendance que j'estime fâcheuse à reporter les tâches pédagogiques sur ceux qui font le moins de recherches. Vous savez qu'il y a en cours une réforme des statuts des universitaires. Je suis quand même assez atterré de voir que celui qui ne fait pas de recherche sera sanctionné par le fait qu'il fera plus d'heures. Moi, j'aurais pensé que dans un monde moderne, celui qui est un ancien chercheur qui ne fait pas de recherche, il est foutu à la porte. Alors, je sais bien que c'est difficile de mettre à la porte des fonctionnaires, mais en attendant, ça veut dire que c'est une faute professionnelle, ça s'appelle comme ça. Eh bien non, quand on fait une faute professionnelle, on va dire on vous met devant les étudiants, et puis bon, tant pis pour les étudiants. Hein. Quant aux savants, on ne les voit jamais. Bien. Le dernier point qui me paraît important, même si aujourd'hui les événements récents tendent à faire reculer cette observation, les débats de politique économique sont souvent occultés. Alors bon, dans le PowerPoint que j'ai mis là, j'ai mis une citation de Dick Baldwin de 2007, je ne vais pas la lire ici, mais qui fait cette remarque concernant les économistes américains, en disant au fond, la génération des années 80, elle était rémunérée pour intervenir dans le débat de politique économique, aujourd'hui c'est du temps perdu. Et je pense que c'est réellement un problème, mais qui est lié... à la nécessaire, je répète, professionnalisation du métier de chercheur. Donc ça, c'est rapidement, excusez-moi, ça va un peu vite, et puis c'est un peu de la caricature, évidemment. Qu'est-ce qu'il en est des études, maintenant ? Alors, les études, pour ce qui concerne ce que je connais, c'est-à-dire les études universitaires, d'économie et, il faut bien dire, de gestion. D'abord, il faut bien comprendre que la formation de licence et de master, que les économistes sont censés délivrer, elle s'adresse... pour l'essentiel, à 95 ou 98%, à de futurs cadres de l'entreprise et de l'administration, pourvu qu'ils deviennent cadres. Parce que je vous signale que les conditions actuelles de formation universitaire font que la proportion de gens qui obtiennent assez rapidement des statuts de cadre d'entreprise est relativement faible. Évidemment, si l'objectif c'est ça, et ça doit être ça, bien sûr, former de futurs cadres, il faut que ces étudiants maîtrisent des techniques qui sont des techniques de gestion. En fait, des techniques qui sont immédiatement mobilisables dans l'entreprise. Hein ? Si vous voulez être embauché correctement à un salaire correct lorsque vous sortez de l'université, il faut exhiber le fait que vous êtes capable de maîtriser des techniques comptables, des techniques financières, des techniques économétriques. Par exemple, pour faire du marketing, contrairement à ce que croient beaucoup de nos collègues de gestion. Ça fait partie de la professionnalisation des études. Le problème, c'est que dans notre environnement à nous, en France, ceci est trop souvent conçu au détriment d'une culture scientifique générale, c'est-à-dire au détriment de formation de base, et notamment de formation en économie. Chacun sait que nous sommes dans un monde, en France, dichotomique, où il y a la gestion et l'économie, et pour un professeur de gestion, l'économie, ça ne sert à rien. Ce qui est quand même assez époustouflant quand on voit qu'on fait des cours de stratégie d'entreprise sans se référer, par exemple, à la théorie des jeux dans un certain nombre d'enseignements. Je ne parle pas des très grandes écoles, je ne parle pas des grandes formations de magistère, je parle du peuple. Hein. Et dans cette situation, moi, ce que j'ai noté, c'est que dans les formations en économie, évidemment, comme on est poussé par la demande étudiante et par la concurrence de nos collègues gestionnaires, on a développé des enseignements qualifiés de professionnels qui se développent dans les formations en économie au détriment des enseignements fondamentaux. Même si ça a tendance à régresser, moi j'ai observé qu'un certain nombre de formations dites professionnelles, DESS, etc., avaient des contenus en formation qui étaient en gros de niveau premier cycle, hein, au mieux d'ailleurs. Et il faut savoir que ce n'est pas ces contenus qui faisaient que les étudiants avaient de bons débouchés en faisant un DESS ou aujourd'hui un M2 professionnel. C'est tout simplement parce que les DESS en question étaient sélectifs et que donc ça économisait sur les coûts de transaction des recruteurs, ce que n'importe quel économiste comprend aisément. Et puis évidemment, bon, mais ça je l'ai déjà dit, donc les formations en gestion drainent maintenant la majeure partie des étudiants. Ils sont en train d'essayer d'avoir des premiers cycles qui sont purement gestionnaires. Et dans un contexte donc où l'économie est coupée, parfois j'ai mis ici « c'est coupé » de la gestion, parce que c'est vrai que nous sommes un certain nombre à avoir conçu des enseignements d'économie qui, étant peut-être parfois un peu trop éthérés, ont fait que, bon, on a dit « on n'en a pas besoin ». Mais franchement, je ne pense pas qu'on est les principaux coupables dans cette affaire. Le résultat de la double professionnalisation que je viens d'évoquer, c'est que la recherche se replie sur des centres prestigieux et peu nombreux. Je parle toujours de la France. Au fond, ma connaissance de l'extérieur est un peu différente. Je connais très très bien l'Italie, là pour le coup, c'est pas vraiment différent. Vous savez que l'enseignement, lui, il est beaucoup plus dispersé géographiquement. Et ça me paraît nécessaire. Moi, je ne pourrais pas imaginer que l'économie soit devenue une discipline tellement peu importante pour la formation des futurs cadres qu'on n'enseigne plus l'économie qu'à Paris et à Toulouse et qu'ailleurs, on fasse de la gestion. On peut faire de la gestion, mais à condition de la fonder sur l'analyse économique. Et donc, en fait, on a un enseignement qui est de plus en plus dominé par des matières de gestion, peu ancré sur la recherche, ou bien un enseignement exclusivement technique. Alors là, je cite évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, hein, la finance. Je trouvais assez drôle, récemment, il y a eu un article dans Le Monde qui s'intitulait, de manière un peu ironique, « Haro sur la finance » par des collègues de Dauphine qui disaient quand même, là, tout le monde est en train de taper sur la finance. Et quand même, on a fait des choses formidables. D'abord, c'est grâce à nous que les victimes des ouragans des Caraïbes peuvent être indemnisées. Bon, sans doute. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'à la fin du papier, ils disaient « Oui, mais quand même, c'est vrai qu'on aurait dû former nos étudiants, au fond, à l'économie et pas simplement aux techniques financières ». Et donc ça, je crois que c'est quand même effectivement très important. Donc l'état des lieux, pour moi, c'est une dichotomie qui s'accroît, qui est dangereuse parce que des études universitaires coupées de la réflexion fondamentale, et dans notre domaine, c'est une réflexion en économie, eh ben, je crains que ceux que nous formons aient des capacités limitées d'adaptation et donc leur profil de carrière seront d'autant obérés. Ce qu'on n'ose pas leur dire. Hein. On dit « Ah ben venez à l'IAE, venez faire des diplômes professionnels, des DESS, etc. Vous allez avoir des emplois immédiatement. » Oui, mais qu'est-ce qui se passera dans 10 ans et dans 15 ans? Je pense que ça mériterait qu'on s'y arrête. Et on sait bien que ce sont des formations générales qui assurent des capacités d'adaptation. La deuxième chose, qui est un point de vue d'économiste au fond, c'est de dire que la recherche en économie, c'est aussi important que la recherche en physique, en chimie, en chose. Et donc, je pense que disséminer les résultats de la recherche, évidemment par l'intermédiaire de l'enseignement et de l'enseignement en formation initiale, eh bien, au fond, ça doit bien participer de déterminer le taux de croissance potentiel de l'économie. Bon, c'est pas démontré, ces choses-là, mais je pense quand même que diffuser la connaissance économique, c'est relativement important. Alors, tout ceci nous amène à nous intéresser à ce qu'est la discipline, quand même. Je pense pas qu'on peut parler de formation, je vais y venir au bout du compte, hein, sans s'interroger sur la discipline. Alors là, c'est un point de vue personnel que je donne avec un parcours qui est le mien, qui n'est pas forcément un parcours très standard, encore que parfois je me sens très, très néoclassique, en réalité. Alors d'abord, la première chose que je veux dire, parce que j'ai participé il y a quelques années au programme de sciences économiques et sociales, c'était en débat. Évidemment, l'économie n'est pas une collection d'opinions, tout équivalente et exprimant des préférences idéologiques. Bien sûr que non, ça n'a aucun sens. Pourtant, mais ça c'est ma conviction à moi, je pense que l'analyse économique n'a pas pour enjeu d'édicter des règles que des savants, nous-mêmes, des économistes omniscients, seraient capables d'élaborer. Et qui serait d'emblée applicable par les décideurs. Hein. Je ne pense pas que les règles du pacte de stabilité de croissance aient des fondements scientifiques avérés, et que c'est une règle qui doit être appliquée hic et nunc, et pour l'éternité, par ailleurs. Moi, je pense que l'analyse économique, elle est là pour éclairer des arbitrages, pour fonder scientifiquement des arbitrages entre des objectifs qui sont très souvent contradictoires, et normalement contradictoires, pour concilier des déséquilibres. Je sais bien qu'on a découvert la divine surprise sur laquelle on pouvait, en stabilisant les prix, en même temps réduire l'output gap. Ça peut arriver, mais enfin les conditions qui sont mises sont très, très restrictives. Et j'ai tendance à penser que des arbitrages de ce type, ça peut continuer à exister, et il y en a bien d'autres. Et le boulot de l'économiste, c'est de dire, ben voilà, vous avez entre les mains ces conditions d'arbitrage, et c'est à vous de choisir en fonction de données qui ne sont pas simplement des données économiques, qui sont des données politiques, sociologiques, etc. Ça veut dire pour moi que la discipline, elle est interpellée par des exigences politiques autant que gestionnaires. Je maintiens que, est-ce que notre question c'est de dire il faut constituer des agences indépendantes ? Moi, je dois dire, une fois de plus, opinion très personnelle, j'ai beaucoup de mal à comprendre exactement ce que c'est qu'une agence indépendante. J'ai beaucoup de mal à penser que l'État est systématiquement non bienveillant. Les choses sont plus compliquées que ça. Et je maintiens donc que les problèmes sont des problèmes de conflits et des problèmes d'arbitrage de ces conflits. D'ailleurs, les agences américaines ne sont pas tout à fait conçues sur le même mode que ce que nous avons conçu en France, à commencer par la Banque centrale. Quelle discipline avant ça ? Je l'avais prévu, il faut dire. Bon, je pense que l'économie est partagée entre micro et macro, oui, bien sûr, et que le pont entre les deux, il n'est jamais complètement établi. Et je ne pense pas que l'une de ces disciplines est scientifique et l'autre pas. Enfin, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la macro qui est scientifique, mais enfin, bon. Tout simplement parce que moi, j'ai appris depuis l'origine, quand j'étais étudiant, que l'une traite d'incitation et d'allocation de ressources, souvent dans des mondes dans lesquels on est bien coordonné, c'est-à-dire qu'on a fait cette hypothèse nécessaire, utile. On ne peut pas mettre tout ensemble. Et puis que la macro s'occupe de coordination de l'activité économique. J'ai pris ça, en aparté, je le disais aussi tout à l'heure. C'est quoi qui est scientifique aujourd'hui ? On est face à une crise financière. Est-ce qu'il faut punir les banques parce qu'elles se sont mal comportées ? Donc ça voudra dire, d'ailleurs, il faut pénaliser le droit des affaires, enfin, ne pas le dépénaliser. Ou bien est-ce qu'il faut recapitaliser les banques pour éviter des crises catastrophiques ? D'un côté, je suis plutôt sur un raisonnement micro, qui se tient parfaitement, mais qui est basé sur des hypothèses spécifiques. Et d'autre, je suis sur un raisonnement macro. Où est la démarche scientifique ? Je crois qu'elle est des deux côtés. Et que penser qu'il y en a une qui ne l'est pas me fait largement sourire. J'ajoute une chose, je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas là ce matin. La macroéconomie n'est peut-être pas scientifique, mais moi je suis assez bête pour penser que la macroéconomie keynésienne, elle a une petite responsabilité dans 30 ans de croissance après la guerre. Par ailleurs, mais ça, là aussi, je pense que c'est un peu dans le même sens, c'est-à-dire je pense que l'économie n'est pas réductible à la formalisation des choix humains, a fortiori de tous les choix humains. Alors je sais bien que l'avance que l'économie a obtenue dans la maîtrise de méthodes, de protocoles d'analyse, fait qu'elle a une tendance naturelle à exporter ces méthodes dans d'autres champs disciplinaires. Je pense que le rapport de la science économique avec de l'économie avec la sociologie, la science politique, etc., n'est pas une exportation de ces méthodes. J'ai eu l'occasion de temps en temps de rencontrer certains travaux très formalisés qui relevaient en fait de la science politique, mais par des économistes, où on m'expliquait quelles étaient les raisons qui avaient valu le passage de la Troisième République à l'État de Vichy. Bon, il y avait simplement un oubli qui était que ça s'était passé, je crois, dans des conditions un peu particulières, en présence d'Adolf Hitler. Donc, je crois qu'il faut faire très attention au fait qu'on peut exporter comme ça des méthodes, et ce n'est pas du tout, à mon sens, le problème de la discipline. Là, pour ceux qui pourront capter le PowerPoint, j'ai pris une citation de Ronald Coase, qui est assez amusante de ce point de vue-là, où il dit que, bon, quand le roi d'Angleterre se proclamait roi de France, ce n'est pas pour ça qu'il était bienvenu à Paris. Je crois que c'est un peu notre problème. Et au demeurant, il est tout à fait secondaire. Je pense que l'économie, c'est la science des interactions. C'est évidemment la science des choix humains, etc. Mais c'est d'abord la science des interactions. Quand on étudie le marché, nous, on étudie les interactions sur les marchés. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement un marché particulier, c'est l'interaction entre le marché des produits et le marché du travail. Et je pense que c'est ça, la science économique, et qu'elle doit rester sur ce terrain-là. C'est ça, son avantage, c'est-à-dire de considérer le système social comme un tout et de traiter les interactions au sein de ce système social. Ça, c'est vraiment ce que l'économie fait et sait faire, avec ces deux dimensions, bien sûr, micro et macroéconomique. Donc, par exemple, je vous dis, est-ce qu'on peut expliquer le chômage en s'en tenant à des comportements d'offres et de demandes sur un marché de travail particulier ? Ma réponse est plutôt non, même si c'est important d'étudier l'offre de travail, la demande de travail, les contextes d'information, etc. Tout ça nous éclaire. Je pense que le chômage, c'est peut-être plutôt regarder l'interaction entre les marchés de travail et les marchés financiers, mais ça nous fait remonter à ce type-là un peu ringard qui est Keynes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, l'économie, c'est un champ d'analyse qui lui est propre, qui ne se distingue pas par sa seule méthode. Bien sûr, on a des méthodes spécifiques, on a des protocoles spécifiques qui sont très, très efficaces et qui font la différence avec d'autres sciences sociales, mais ce n'est pas ça qui fait simplement distinction. Ce qui fait en distinction, c'est qu'on a un champ d'analyse propre. Et je pense que l'économie, son objet, c'est d'aider à la compréhension dans son champ, qui est bien délimité en réalité, de phénomènes qui évidemment s'inscrivent dans d'autres champs. Je ne doute pas que le problème du chômage, je l'ai noté ici, ou le problème de l'ouverture aux échanges, ça soulève des questions politiques, géopolitiques, sociologiques, etc. Mais nous, on le traite comme économistes, avec notre champ qui est l'étude des phénomènes d'interaction. Donc ça veut dire pour moi que le rapport de l'économie aux autres disciplines, c'est d'abord un rapport de complémentarité et pas de substitution. Bon, là, j'ai dit, évidemment, si je veux étudier le fonctionnement des marchés, j'ai intérêt à connaître le système des droits de propriété, que ça me fait rentrer quand même assez largement dans la connaissance du droit. Pour autant, l'économie ne se substitue pas au droit et le droit ne se substitue pas à l'économie. La notion de contrat incomplet, pour nous, c'est important. Elle éclaire beaucoup de choses, mais c'est pas une notion directement juridique, vous savez. Alors, quel est l'impact pour la formation, pour moi ? À l'impact pour la formation, il y a d'abord trois choses qui me paraissent basiques, en quelque sorte. Premièrement, la formation, c'est d'abord la maîtrise des champs et des raisonnements scientifiques qui sont propres à la discipline. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que la connaissance, c'est d'abord la connaissance de sa discipline, des limites de sa discipline, ses frontières, et des raisonnements qu'elle conduit. Deuxièmement, je crois que c'est une formation, là je parle de la formation universitaire, qui doit faire une réelle place aux études empiriques. Ce qui veut dire, par voie de conséquence, qu'il faut permettre aux étudiants d'avoir une solide maîtrise des techniques empiriques les plus modernes, les plus récentes. J'ajoute d'ailleurs que cette maîtrise des techniques empiriques, c'est ce qui fera leur force sur le marché du travail demain. C'est quoi un économiste dans son premier emploi, s'il ne fait pas l'université, mais même s'il fait l'université, c'est de dire, voilà, moi, je maîtrise des techniques statistiques et économétriques, et donc je vais pouvoir faire un certain nombre de travaux, et puis évidemment tout ce qui va avec la maîtrise des informatiques, mais c'est très important. Donc, derrière la maîtrise des études empiriques, qui veut dire je ne vais pas simplement faire de la théorie, encore vous savez que théorie en grec, ça veut dire observer, hein. Il faut qu'il y ait cette place importante pour que, à la fois pour des raisons d'équilibre de la formation, et puis, je répète, pour des raisons de débouchés évidents des étudiants. Et puis, je pense qu'il faut former les étudiants à l'identification des problèmes économiques, c'est-à-dire que c'était Alfred Marshall qui disait ça. Hein. Il disait avant de construire un modèle, développer des techniques mathématiques, etc., il faut d'abord identifier le problème avant de choisir les outils. Alors, si le problème est tel qu'il n'y a pas d'outils, je crois qu'effectivement, il vaut mieux laisser le problème un peu de côté pendant un moment avant de pouvoir le traiter. Mais ça veut pas, au contraire, je crois qu'il ne faut pas simplement s'en tenir à des modèles, à les sophistiquer à l'infini, à modifier un paramètre, et puis sans se préoccuper du problème que l'on veut traiter. Alors, ceci m'amène à dire que, pour moi, la formation, mais là, franchement, pour tous mes collègues ici, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Bon, la formation, d'abord, d'économie, elle est évidemment en trois cycles. Je pense que ça doit être une formation qui doit enregistrer une réelle progression des difficultés. Je disais tout à l'heure, je suis totalement effaré de voir qu'il y a des troisièmes cycles qui sont des troisièmes cycles dont le niveau est inférieur parfois au premier cycle, en tout cas équivalent au premier cycle. Je suis même effaré de voir dans un certain nombre d'universités, dont la mienne, je n'hésite pas à le dire, que des cours soi-disant spécialisés de Master 1 sont des cours qui font appel à beaucoup moins d'abstraction, à beaucoup moins de connaissances théoriques que des cours de première année, ce qui est proprement absurde. Donc la progression est absolument nécessaire, il faut la construire, et je pense que ça fait partie des problèmes que nous rencontrons à l'heure actuelle. Dans un certain nombre d'universités. Je ne dis pas partout, hein, je sais qu'il y a des endroits où ça marche bien. Hein. Je crois que cette progression ne doit pas être un prétexte pour différer les interrogations sur la pertinence empirique et les limites des théories. Je pense que dès la première année, on peut s'interroger sur leur montrer qu'est-ce que c'est que faire de l'analyse économique, qu'est-ce que c'est que de faire une hypothèse, qu'est-ce que c'est que de raccrocher des résultats à des hypothèses et de faire une discussion sur les hypothèses. Ça marche très très bien. Je trouve que cette année, moi, j'ai repris un cours en première année depuis fort longtemps, à tort d'ailleurs. C'était un tort de ne pas l'avoir fait depuis longtemps. Et je m'aperçois que ça marche, hein, avec des étudiants qui sont quand même à un niveau moyen qui est assez inférieur à ce qu'on peut obtenir dans les classes préparatoires ou à Sciences Po, où j'enseigne à peu près la même chose. Et donc, pour moi, la limite des théories, c'est ça aussi, c'est de dire la théorie n'a pas la prétention à embrasser la totalité du réel, la totalité d'un problème, etc. Et il faut savoir le dire. Et donc, ni pour différer la présentation des grandes questions économiques. Moi, je pense qu'en première année, il faut leur parler de chômage, d'inflation. Globalisation, je ne suis pas trop... C'est des mots un peu passe-partout. Mais en tout cas, il faut leur parler de ces questions-là. On le disait ce matin pour les élèves des lycées. Moi, je n'ai pas voulu intervenir. Mais franchement, vous pensez que les élèves de lycée à qui on fait de la philo, on ne peut pas leur parler d'inflation et de chômage, qui veulent simplement parler de leur relation avec le commerçant du coin pour discuter le prix des pommes. Enfin, il faut arrêter, c'est ce que j'ai entendu quand même. Hein. Donc, évidemment, on a des élèves qui ne sont pas encore plongés complètement dans les difficultés de la vie sociale, etc., qui sont encore des esprits neufs, etc., qui s'intéressent à une réflexion générale. Donc, il faut leur parler de ça, mais aussi en première année de faculté. Hein, je veux dire. Et c'est là qu'on va les intéresser à l'économie, mais à condition de faire ce qu'on a dit avant, hein, c'est-à-dire bien montrer les limites. Je vais vous expliquer pourquoi il peut y avoir du chômage en telle circonstance. Voilà les limites. Cette analyse, elle est vraie sous certaines conditions. Et donc ça va les intéresser pour que demain, ils approfondissent et qu'ils soient vraiment des économistes. Donc pour moi, ça veut dire que la formation de premier cycle doit être... J'ai appelé ça multidisciplinaire. J'aime pas trop. Je reprends ici une proposition qui avait été faite dans le rapport Fitoussi en 2002, je crois, auquel j'avais un peu participé, qui était de dire, au fond, il faut laisser les élèves un peu ouverts dans le premier cycle. Et donc, il faudrait qu'ils choisissent une majeure et deux mineures, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a des gens qui peuvent très bien choisir l'économie. Il faut leur faire un parcours dans lequel ils font beaucoup d'économie. Puis, il y a des gens qui peuvent prendre l'économie comme mineure et puis qui se retrouveront dans des cycles un peu moins... Mais je pense que le premier cycle ne soit pas exclusivement d'analyse économique, c'est important. Moi, je suis une génération... où quand je suis arrivé comme assistant en 1970, notre problème, c'est qu'on n'avait aucune formation en économie. Il n'y avait pas de formation en économie. On faisait un cours d'économie générale en première année, en deuxième année, je crois que ça s'appelait... Il y en a un qui s'appelait Monnaie et Crédit, je suis de première année, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, et puis après, on faisait un peu d'économie internationale, d'histoire de la pensée. En gros, on ne savait rien. Donc on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on se forme. Donc on a introduit des cours, micro, macro, macrodynamique, en plus, avec des noms un peu. Hein. Et puis mathématiques, statistiques. Bon, donc c'était costaud. Bon, je pense qu'on avait raison à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé et que peut-être il faut redéplacer un peu le curseur. C'est d'ailleurs assez largement fait. Il ne faut pas croire qu'on a rien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc, mon idée générale, c'est ça. C'est de dire, bon, il faut qu'à côté de l'économie, il y ait des disciplines auxiliaires, en quelque sorte, ou des disciplines qui peuvent être des majeures, l'économie étant une auxiliaire, mais il faut que ça soit un peu diversifié. Quand je dis majeur-mineur, hein, ça peut être économie, mathématiques, statistiques, bien sûr. Hein, pourquoi pas? Mais pas pour tout le monde. Par contre, la formation en master, elle doit être totalement disciplinaire. Mais je dis sur toute la discipline, non pas sur une fraction de la discipline. Et je dois vous dire, moi, je suis complètement effaré de voir la carte des masters aujourd'hui en France. Moi, je ne comprends pas comment un étudiant peut rentrer dans ce type de master, parce que c'est complètement illisible. Il ne sait pas de quoi on va parler. Vous avez un master économie de la connaissance, un master je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi en réalité, alors qu'un master, c'est un master of economics. Hein, où on va traiter toutes les disciplines d'économie. Alors, on va donner des choix aux étudiants. Ils pourront faire plutôt de l'économie publique. Plutôt, bon. Mais par exemple, est-ce qu'on doit faire de l'économie publique ou on doit faire économie de la santé, économie régionale? Non, économie publique. Hein. Donc, je crois que c'est là qu'on donne la formation vraiment essentielle où les gens maîtrisent la discipline. Et moi, je pense qu'il doit y avoir un master d'économie. On me dit, ah, mais si tu fais un master d'économie, il n'y aura plus d'étudiants. Ben, je ne suis pas si sûr. Parce qu'aujourd'hui, avec notre gamme de masters en tout genre, dans les universités en général, ben, il n'y a plus d'étudiants dans les masters. Hein. Sauf le master qui met finance. Alors là ça marche. Hein. Là, même ça continue à marcher parce que même la crise financière attire les gens alors que, en fait, les salaires vont baisser. Bon, enfin. Donc, ça me paraît important. Et s'il y a vraiment une réforme à faire, c'est de dire à l'ARS, à l'agence d'évaluation, etc., que les experts fassent leur boulot et disent qu'il faut des masters en économie. Quant à la formation doctorale, ça commence à venir. Ben, la formation doctorale, ce n'est pas de signer un papier et dire un type, bon, vous avez 3 ans ou 6 ans ou 20 ans pour faire une thèse. C'est introduire des enseignements spécifiques au doctorat pendant au moins un an, peut-être 2 ans. En tout cas, en fait, la possibilité pour les doctorants de suivre des séminaires tout au long de leur cursus. J'ajoute, mais ça c'est un peu, bon je l'ai mis là, mais c'est un peu mélanger les choses, mais il faut aussi qu'on se mette dans la tête qu'un doctorat, ce n'est pas simplement fait pour faire de l'enseignement supérieur, de la recherche, et qu'il y a un enjeu, mais ça dépasse largement l'économie, pour que le titre de docteur soit reconnu en France, et que les fonctions de direction demain soient dévolues à des gens qui sont docteurs, ils peuvent être docteurs en économie, en physique, en chimie, n'importe quoi. Mais je pense que la formation doctorale, c'est très important, parce que ça instille le doute. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous dirigent, qui n'ont pas fait de thèse, qui ne pensent pas qu'il faille douter de quoi que ce soit. Et ça, c'est la recherche qui enseigne. Je dirais, même une thèse moyenne, médiocre, etc., elle vous a au moins forcé à vous interroger sur un certain nombre de choses, et c'est très important. Et en tout cas, la formation doctorale, c'est son objectif. Donc, dans ce cadre-là, moi, je plaiderais pour d'abord des enseignements dont je crois qu'ils devraient... Alors ça, je parle évidemment essentiellement... Enfin, je parle pour le premier cycle et le deuxième cycle. Je pense que les enseignements doivent être définis sur des thématiques assez larges. Je pense qu'il doit y avoir un enseignement d'économie publique, comme je disais tout à l'heure, ou d'économie industrielle. Il ne faut pas saucissonner ça en fonction de secteurs d'application qui n'a pas trop de sens, à mon avis. Les applications, ça vient dans le cours de base. Je crois aussi qu'il faut des durées suffisamment longues. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'université, ça peut paraître curieux, mais enfin, aujourd'hui, les cours, en moyenne, c'est 20 heures, c'est 25 heures. Ben, ce n'est pas sérieux. Hein. Alors, c'est beaucoup plus commode. Franchement, moi, vous me donnez un cours de macro, moi, je fais ISLM pendant 20 heures sans problème, j'ai rien à préparer, etc. Et je ne sais pas ce que les étudiants en auront retiré. Mais par contre, si on me dit, vous avez 50 heures ou comme autrefois, temps béni du passé, 75 heures, alors là, attends, hein, il faut que je me remue pour faire un cours, que je le construise, etc. Hein, que, bon, hein, je ne recopie pas simplement tel ou tel manuel, ce serait quand même trop visible. Donc je pense que les cours doivent être suffisamment longs pour que le prof fasse son boulot, hein, y compris son boulot ex cathedra. C'est la mode de dire cours ex cathedra, c'est pas moi, les cours ex cathedra, ils sont mauvais quand ils sont mal faits. Mais s'ils sont bien faits, bah, c'est pas si mal. Hein. Et oui, je pense que tous ces cours doivent être conçus dans des perspectives où il faut qu'il y ait des débats scientifiques, académiques, et des débats de politique économique ou de stratégie d'entreprise, parce qu'il n'y a pas que des débats en politique économique. Hein. Ce matin, j'entendais qu'il paraît qu'en politique économique, personne ne sait faire, mais qu'en matière de stratégie d'entreprise, on sait faire. Ah bon ? Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il n'y avait jamais d'entreprise en faillite. Enfin, bon. Alors... Quelle organisation institutionnelle ? Ça, c'est compliqué dans notre pays parce qu'on a une longue histoire. On ne va pas réformer le système dans son ensemble. Et il ne faut pas casser les choses qui marchent. Hein. Il y a des choses qui marchent. On ne va pas les intégrer dans les trucs qui ne marchent pas. Ça, c'est comme ça. Je le regrette, hein, d'une certaine manière, parce que comme j'appartiens aux trucs qui ne marchent pas, j'aurais préféré. Enfin, bon. Alors, moi, ce que je crois aujourd'hui, première chose, c'est qu'il faut préserver un nombre suffisamment important d'unités de recherche, hein, en économie. Et croyez-moi, c'est un véritable enjeu. Hein. C'est un véritable enjeu parce que sans unité de recherche, on ne pourra pas irriguer la formation au meilleur niveau dans un nombre suffisant de pôles universitaires. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait, je ne sais plus, 40 facultés d'économie, 40 laboratoires de recherche, voire 80, parce qu'évidemment, comme vous savez, on a une certaine habileté à diviser les unités de recherche en plusieurs. Mais je pense qu'au niveau national, il faudrait qu'il y ait entre 10 et 15 pôles d'économie, tout simplement pour assurer la formation d'un nombre suffisant d'économistes dans ce pays, un nombre raisonnable. Et puis parce que je pense que la multiplicité des centres, c'est aussi un gage de concurrence intellectuelle et qu'on n'est pas là simplement pour produire des clones. Et c'est quand même un risque de la professionnalisation de la recherche. C'est-à-dire que, compte tenu des critères qui sont les nôtres, tout ça va s'uniformiser et tout le monde va dans le même sens. Et voilà. Alors, ceci étant, ça peut changer rapidement, parce que moi, j'ai vu un bouquin là, du CEPR là, qui est sorti il y a 15 jours là, sur le G20. Là. Ils interrogeaient tous les économistes, enfin tous les grands économistes, sur ce que devait dire le G20. Ben, c'est formidable, hein, formidable. Tous, ils sont tous keynésiens, hein, pour la stimulation budgétaire, etc. Ils renient ce qu'ils ont écrit il y a 6 mois, il y a 2 ans, etc. Donc c'est formidable. Donc peut-être la concurrence intellectuelle vient de l'extérieur, parfois. Alors... Je pense aussi que les chercheurs doivent enseigner. Je sais que ce n'est pas de bon ton aujourd'hui de dire qu'on est pour les chaires de maître de conférence recherche, qui veut dire clairement qu'on supprime la catégorie des chargés de recherche CNRS. Eh bien, je suis désolé, je suis pour la suppression des chargés de recherche CNRS et des DR CNRS, pas l'élimination de ceux qui sont là maintenant. Hein. Mais je pense, parce qu'en plus, si je prends les CR et les DR, leur niveau de scientifique est évidemment très au-dessus du niveau moyen des enseignants-chercheurs. Hein. Bon. Mais ce que je pense, c'est qu'on n'est pas enseignant à vie, on n'est pas chercheur à vie, pardon, d'une part, et que d'autre part, attendez, soyons sérieux, on n'est pas tous des prix Nobel, donc si on fait de la recherche, en fait, on se met à la frontière des connaissances, on continue à avoir une activité intellectuelle qui se veut intense, et donc l'enjeu, c'est de la communiquer aux étudiants. Donc il faut que les chercheurs enseignent, et j'ajoute, pas simplement dans leur petite spécialité restreinte de recherche. Hein. Il faut qu'ils aient la capacité de faire des cours plus larges, il faut qu'ils le fassent. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'ils fassent 128 heures. Hein. Moi, aujourd'hui, quand j'entends d'ailleurs tous les braillards qui disent « Ah, on va nous augmenter les services, etc. », moi, je n'oublie pas quand même que c'est une de nos chères collègues économistes qui nous a voté l'alourdissement des services il y a un peu plus de 25 ans. Il y a 25 ans. En tout cas, je pense que les chercheurs doivent enseigner et que c'est une bonne réforme d'avoir des maîtres de conf qui dispose d'un allègement de service, qui dispose d'une prime supplémentaire, qui dispose d'argent complémentaire comme à l'IUF pour faire de la recherche. Je crois que c'est très important. En plus, je viens d'apprendre ce qui avait été proposé, que ça ne concerne pas simplement les maîtres de conférences en recrutement, mais les maîtres de conférences qui sont déjà dans l'université et qui pourraient être disposés de ces avantages. J'ajoute, je ne comprends pas qu'on puisse confier des enseignements fondamentaux à des enseignants non reconnus en recherche. J'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais pas comprendre que ne pas faire de recherche serait comme conséquence qu'on ferait les enseignements. Alors, je sais plus ce que c'est qu'un enseignement universitaire. Moi, quand j'ai commencé ce métier, compte tenu de ce qu'était l'économie dans ce pays, on nous a expliqué, attention, certes, il faut enseigner, mais il faut que vous fassiez de la recherche. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont fait. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut faire le discours inverse. Bon, c'est bien que vous fassiez de la recherche, mais il faut que vous fassiez de l'enseignement. Mais pas que des enseignants qui ne font pas de recherche enseignent. Non, ça, ça ne va pas. Voilà, j'ai indiqué ici quelques références que vous pourrez voir éventuellement, et je vous remercie.
Merci Jean-Luc. Bon, on va se translater de Nice.